Les dernières paroles, Évangile selon Jean, chapitre 15. Introduction. Lecture de l'étude. Le grand but de l'entretien du chapitre 13 est de placer les croyants dans des relations appropriées avec Christ et les uns avec les autres, afin qu'ils puissent goûter la communion avec Christ, avoir part avec lui, dans la position nouvelle qu'il a prise comme homme dans la maison du Père. Dans l'entretien qui suit, chapitre 14, il nous est accordé de contempler les croyants dans la jouissance de cette communion avec les personnes divines, avec Christ dans la maison du Père, avec le Père révélé dans le Fils, et avec le Saint-Esprit envoyé d'auprès du Père. Ces deux entretiens sont séparés de ceux qui suivent par les paroles du Seigneur « Levez-vous, partons d'ici », chapitre 14, verset 31. Ces paroles dites, le Seigneur passe avec ses disciples de la chambre haute dans le monde extérieur. Le caractère des discours qui suivent est en accord avec le lieu où ils sont prononcés. Car maintenant, les disciples sont vus comme étant dans le monde, hors duquel Christ a été rejeté, portant du fruit pour le Père et rendant témoignage à Christ. On a dit à juste titre, dans le premier, la note dominante est la consolation en vue de son départ. Dans le second, c'est une instruction pour l'état qui va en résulter. Dans l'un comme dans l'autre, celui qui parle instruit, dans l'un comme dans l'autre, il console. Le plan de ce nouvel entretien est évident. 1. Les versets 1 à 8 ont pour thème « Porter du fruit pour le Père ». 2. Les versets 9 à 17 présentent la compagnie chrétienne, le cercle de l'amour, seul endroit où peut se trouver du fruit pour le Père. 3. Les versets 18 à 25 font passer devant nous le monde sans Christ, le cercle de la haine, qui entoure la compagnie chrétienne. 4. Les versets 26 et 27 placent devant nous le Consolateur, le Saint-Esprit, rendant témoignage au Seigneur dans la gloire et donnant aux disciples la capacité de rendre témoignage à Christ sur la terre. Portée du fruit. Chapitre 15, versets 1 à 8.
Lecture de la parole. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Vous, vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on les amasse et on les met au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples.
Lecture de l'étude. Le Seigneur introduit le sujet du fruit par ses paroles. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. De telles paroles ont dû paraître étranges aux oreilles des onze, habitués qu'ils étaient par les psaumes et les prophètes à considérer Israël comme étant le cep. Le psaume 80 avait parlé d'Israël comme d'un cep transporté d'Égypte. Ésaïe, dans le cantique du bien-aimé sur sa vigne, présente, sous l'image du cep, l'amour et les soins que l'Éternel avait prodigués à Israël. Jérémie parle d'Israël comme d'un cep exquis. Hélas, Israël n'avait pas porté de fruits pour Dieu. Isaïe se lamente de ce qu'ils n'ont produit que des raisins sauvages. Et Jérémie déplore que le cep exquis se soit changé en sarment dégénéré d'une vigne étrangère. De même, Osée parle d'Israël comme d'une vigne branchue qui porte seulement du fruit pour lui-même, mais rien pour Dieu. Ésaïe 5, versets 1 à 7.
Je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, et il la fossoya et en ôta les pierres, et la planta de cèpes exquis. Et il bâtit une tour au milieu d'elle, et y tailla aussi un pressoir. Et il s'attendait à ce qu'elle produirait de bons raisins, et elle produisit des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages? Et maintenant, je vous apprendrai ce que je ferai à ma vigne. J'ôterai sa haie, et elle sera broutée. J'abattrai sa clôture, et elle sera foulée aux pieds. Et je la réduirai en désert. Elle ne sera pas taillée, et elle ne sera pas sarclée, et les ronces et les épines monteront, et je commanderai aux nuées qu'elles ne laissent pas tomber de pluie sur elle. Car la vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont la plante de ses délices. Et ils s'attendaient au juste jugement, et voici l'effusion de sang, à la justice, et voici un cri.
Jérémie 2, verset 21.
Et moi, je t'avais planté un cep exquis, une toute vraie semence. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment dégénéré d'une vigne étrangère?
Osée 10, verset 1.
Israël est une vigne branchue. Il porte du fruit pour lui-même. Selon l'abondance de son fruit, il a multiplié les autels. Selon la beauté de son pays, il a rendu belles ses statues.
Pendant des années de patience et de support, Dieu avait de diverses manières mis Israël à l'épreuve. Il avait cherché du fruit, mais il n'avait trouvé que des raisins sauvages. L'ultime et suprême épreuve était la présence du Fils bien-aimé. Le rejet délibéré du Fils était la preuve dernière qu'Israël était véritablement des sarments dégénérés et une vigne branchue. Ainsi, le moment était venu de révéler aux disciples qu'Israël était mis de côté. S'ils doivent porter du fruit, ce n'est plus comme étant liés à Israël, le sarment dégénéré, mais à Christ, le vrai cep. Christ et ses disciples prennent la place de Jérusalem et ses enfants. Tout en nous introduisant dans ce qui remplace Israël sur la terre, les paroles du Seigneur ne présentent toutefois pas le christianisme dans ses relations célestes. Il ne considère pas les croyants comme unis par le Saint-Esprit à Christ dans le ciel et membres de son corps, union vitale qui ne peut être rompue, mais comme en relation avec lui sur la terre dans la profession qu'ils font d'être ses disciples. Cette profession peut être réelle ou n'être qu'une simple profession. Aussi le Seigneur parle-t-il de deux espèces de sarments, ceux qui ont la vie et qui la montrent par le fruit qu'ils portent, et ceux qui n'ont pas la vie et qui sont jetés dehors et brûlés. Combien il est alors à propos que, parmi tous les arbres, le cep soit utilisé ici comme figure, vu que le grand thème de cet entretien est le fruit, comme preuve de la réalité de la qualité de disciple. D'autres arbres peuvent être utiles indépendamment de leurs fruits. Ce n'est pas le cas de la vigne. Ézéchiel, parlant des sarments, demande « En prendra-t-on du bois pour en faire quelque ouvrage, ou en prendra-t-on une cheville pour y suspendre quelques ustensiles. Ézéchiel 15, verset 3. Si le sarment ne produit pas de fruits, il est inutile. Quelle est donc la signification spirituelle du fruit? Ne pouvons-nous pas dire que le fruit est la manifestation de Christ dans le croyant? Nous lisons en Galates 5, verset 22 que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais n'est-ce pas une description magnifique de Christ, l'homme abaissé qui a marché ici-bas dans l'humiliation? Si donc un tel fruit est vu dans les croyants, il aura pour résultat la reproduction de Christ dans les siens. Christ, personnellement, s'en est allé de cette scène, mais c'est le désir de Dieu que Christ reste vu dans ses traits en ceux qui sont de lui. Christ, en personne, s'en est allé dans la maison du Père. Christ, dans ses traits moraux, continue, pour ainsi dire, dans les siens sur la terre. Le fruit n'est pas exactement l'exercice d'un don, ni un service ou une œuvre. Nous sommes certes exhortés à marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre. Colossiens 1, verset 10. Mais ce passage, tout en montrant combien le fait de porter du fruit est étroitement lié aux bonnes œuvres, les distingue néanmoins nettement. Les bonnes œuvres doivent être accomplies d'une manière tellement conforme à Christ que, dans les œuvres qui profitent à l'homme, il soit trouvé du fruit acceptable pour Dieu. L'homme naturel peut faire une quantité de bonnes œuvres, mais dans de telles œuvres, il ne se trouvera pas de fruit pour Dieu. Est-ce que l'apôtre, en 1 Corinthiens 13, ne nous prévient pas que nous pouvons être actifs dans le service et les bonnes œuvres, et pourtant manquer d'amour, l'expression la plus excellente du fruit? Si le service et l'œuvre étaient du fruit, celui-ci serait limité dans une large mesure à ceux qui possèdent un don et des capacités. Mais si le fruit est la manifestation de Christ, porter du fruit devient alors une chose possible, comme aussi un privilège pour tout croyant, du plus âgé au plus jeune. Qui d'entre ceux qui aiment Christ et admirent les perfections de celui dont toute la personne est admirable, ne désirerait pas, en quelque mesure, manifester ses grâces et par là produire du fruit? Si tel est le désir du cœur, trois ressources et moyens sont indiqués par le Seigneur pour nous aider à réaliser notre désir. D'abord, les soins pleins de grâce du Père, puis la purification pratique par la parole de Christ, et enfin, la responsabilité du croyant de demeurer en Christ. Les soins du Père sont représentés par les méthodes employées par le cultivateur. D'abord, il peut malheureusement se produire que quelques sarments, tout en ayant un lien vivant avec le cep, ne portent pas de fruits. Ceux-là, le Père les ôte. Ces sarments sont tout à fait distincts des sarments secs du verset 6, qui sont jetés dehors et brûlés. Ici, c'est le Père qui ôte. Là, ce sont les hommes qui les jettent dehors. N'en a-t-il pas été ainsi de certains d'entre les saints à Corinthe, dont la marche était telle que le Père n'a pas voulu les laisser ici-bas pour jeter de l'opprobre sur le nom de Christ, et il les a recueillis, ainsi que nous le lisons, un assez grand nombre dorment, 1 Corinthiens 11, verset 30. Ensuite, il y a l'action pleine de grâce du Père envers ceux qui portent du fruit, afin qu'ils portent plus de fruits. Ceux-là, il les nettoie. La correction et la discipline du Père ont pour but d'enlever tout ce qui empêche la manifestation du caractère de Christ. Certes, cela peut être pénible, car aucune discipline, pour le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Hébreux chapitre 12, verset 11. Si nous sommes exercés devant le Père quant à ses soins envers nous, nous ne serons pas aigris et remplis d'amertume par l'adversité, mais plutôt apaisés et adoucis. Il en résultera que le caractère de Christ sera vu en nous et nous commencerons à porter du fruit. Verset 3. Deuxièmement, il y a les soins pleins d'amour du Seigneur lui-même envers nous pour que nous portions du fruit. Il peut dire, vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Il s'agit de la séparation pratique produite par sa parole de tout ce qui est contraire à Christ. À ce moment-là, les disciples étaient nets. Leurs pieds n'avaient-ils pas été entre les mains du Seigneur? L'eau appliquée par ses mains avait effectivement opéré son œuvre purificatrice. Si nous voulons connaître quelque chose de la purification pratique de la parole, nous ferons bien de nous asseoir à ses pieds comme Marie autrefois et d'écouter sa parole. Nous savons tous ce que c'est que d'aller à lui avec nos confessions, nos difficultés et nos exercices, et il est bon de savoir qu'il prête l'oreille à nos paroles hésitantes. Mais il se peut que nous soyons rarement seuls avec lui, simplement pour être dans sa compagnie et pour écouter sa parole. Et pourtant, que peut-il y avoir de plus propre à nous purifier et à produire du fruit que d'être assise à ses pieds et d'écouter sa parole? Marie, qui a choisi cette bonne part, a porté un fruit si précieux à Christ qu'il peut dire, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Matthieu 26, verset 13. Versets 4 et 5. Le troisième moyen par lequel la vie du disciple peut être rendue féconde se trouve dans ses propres mains. Il est résumé par l'expression deux fois répétée « Demeurez en moi ». Demeurer en Christ représente notre privilège autant que notre responsabilité de marcher constamment dans la dépendance de Christ. Comme quelqu'un l'a dit, demeurer en Christ, c'est être dans la proximité de cœur, pratique et habituelle avec lui. Si nous avons appris que le fruit est la reproduction du caractère moral de Christ, exprimé par l'amour, la joie, la tempérance, nous réaliserons qu'un tel idéal ne peut être atteint par nos propres forces. La réalisation de l'excellence morale du fruit d'une part et de l'extrême faiblesse qui nous caractérise d'autre part nous convaincra de la vérité des paroles du Seigneur « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire ». Son fruit peut certes être doux à notre palais, mais ce n'est qu'en demeurant à son ombre que nous participerons à son fruit. Sans la lumière et la chaleur du soleil, la vigne ne pourrait porter de raisins. De même, à moins que nous ne demeurions dans la lumière et l'amour de la présence de Christ, nous aussi nous serons stériles. Si nous demeurons en Christ, Christ sera alors en nous, et si Christ est en nous, nous manifesterons les traits exquis de Christ. Il est donc évident que nous ne saurions porter du fruit en faisant du fruit l'objet de notre recherche ou de notre pensée. Avoir Christ comme objet. Pensez à lui est le secret de la fécondité. Christ précède le fruit. Verset 6. Au verset 6, nous avons le cas solennel du sarment mort, le simple professant qui prend le nom de Christ, mais n'a pas de lien vital avec lui. Un tel homme ne peut porter de fruit. Dans l'image employée, le sarment mort ne se trouve pas l'objet des soins personnels du cultivateur. Ce sont d'autres qui s'occupent de lui. Ainsi, le professant stérile et, par conséquent, sans vie, n'est pas entre les mains du Père, mais étant sous le gouvernement de Dieu, il est entre les mains des exécuteurs de son jugement. Et ici, le sarment n'est pas ôté, mais jeté dehors, amassé, mis au feu et brûlé. Judas n'est-il pas un exemple solennel et terrible d'un sarment sec? Dans le cas de ceux auxquels le Seigneur s'adressait, le lien avec lui-même était vital, car ne venait-il pas de dire « Vous êtes déjà nets ?» C'est pour cette raison que le Seigneur ne dit pas « Si vous ne demeurez pas », mais « Si quelqu'un ne demeure pas en moi ». Les termes sont changés pour exclure la pensée qu'un vrai disciple puisse être jeté dehors et brûlé. Versets 7 et 8. Après avoir placé devant nous les soins pleins de grâce par lesquels la vie du croyant est rendue féconde, le Seigneur se met à exposer les résultats qui découlent de cette fécondité. Premier effet chez les disciples, une marche dans la dépendance agissante et continuelle de Christ, ses paroles formant ainsi constamment les pensées et les affections, amènerait l'âme à prier en accord avec la volonté du Seigneur, et ses prières seraient exaucées. Un second grand résultat est en relation avec le Père. Porter du fruit glorifie le Père. Christ a toujours été l'expression parfaite du Père. Ainsi, dans la mesure où nous manifestons les traits moraux de Christ, nous aussi nous présenterons la vérité quant au Père, et par là nous le glorifierons. Enfin, en portant du fruit, nous deviendrons des témoins pour Christ lui-même. Si nous manifestons son caractère, il deviendra évident à tout le monde que nous sommes ses disciples. La compagnie chrétienne. Jean chapitre 15, versets 9 à 17.
Lecture de la parole. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie. C'est ici mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci qu'il laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres.
Lecture de l'étude. Dans les derniers entretiens du Seigneur, on trouve un développement progressif de la vérité qui prépare les disciples à la mise de côté du système juif terrestre avec lequel ils avaient été liés et à l'introduction de quelque chose de nouveau, la compagnie chrétienne céleste dans son origine et dans sa destinée, même si elle est laissée un temps dans le monde pour représenter Christ, l'homme dans la gloire. En écoutant les paroles du Seigneur, nous faisons bien de garder à l'esprit les deux grands faits qui sont à la base de tout l'enseignement de ces paroles d'adieu. D'abord le grand fait placé maintes fois devant nous, que le Seigneur allait quitter le monde pour occuper une position nouvelle comme homme dans le ciel. Secondement, le fait qu'une personne divine, le Saint-Esprit, allait venir du ciel sur la terre. En conséquence de ces deux grands faits, il y aurait dans ce monde une compagnie de croyants unis à Christ dans la gloire et unis les uns aux autres par le Saint-Esprit. C'est à cette nouvelle compagnie, représentée par les disciples, que le Seigneur adresse ses dernières paroles. Après avoir révélé à ses disciples son désir de les voir porter du fruit et manifester les traits exquis de son propre caractère dans un monde dont ils seraient absents, il place maintenant devant eux la nouvelle compagnie chrétienne dans laquelle seul il peut y avoir du fruit. N'est-il pas évident que la pleine expression du fruit exige tout un groupe, car bien des grâces de Christ ne sauraient guère trouver leur expression dans un disciple isolé. La patience, la douceur, la bonté et d'autres traits de Christ ne peuvent être manifestés dans la vie pratique que lorsque nous nous trouvons en compagnie d'autres. Dans le premier verset de Jean 13, il nous est dit que pendant l'absence de Christ, il y a, sur la terre, ceux qu'il appelle les siens et qu'il les aime jusqu'à la fin. Le fait qu'il les aime jusqu'à la fin prouve qu'en dépit de tous les manquements, ils existeront jusqu'à la fin. Extérieurement, les siens peuvent être divisés et dispersés, mais ils demeurent sous son regard. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Quel bonheur pour ces croyants qui trouvent leur joie dans la compagnie des siens. Si Christ était personnellement présent sur la terre, nous désirerions tous être dans sa compagnie. Mais puisqu'il s'en est allé, nous aimerons sûrement être avec ceux qui manifestent quelque chose de ses caractères. Si, au sein de toute la confusion de la chrétienté, nous pouvons encore trouver quelques âmes qui, sans prétention aucune, reproduisent quelque chose de Christ moralement, celles-ci seront sans doute très chères au cœur qui aime Christ. Tandis que les grands systèmes religieux des hommes, où il y a tant de l'homme et si peu de Christ, cesseront d'exercer de l'attrait. Combien il importe alors que nous prêtions une attention sérieuse à un passage qui nous dévoile les grands traits moraux de la nouvelle compagnie chrétienne que constitue l'Assemblée de Christ pendant son absence. En parlant de la compagnie chrétienne, veillons à ne pas soit la restreindre à un nombre limité de saints, d'une part, soit l'élargir au point d'inclure ceux qui ne sont pas de Christ d'autre part. Versets 9 et 10. Le premier caractère et le signe le plus distinctif de la compagnie chrétienne est l'amour de Christ. La compagnie chrétienne est aimée de Christ. Ceux qui la composent peuvent être presque inconnus du monde, ou, s'ils en sont connus, être méprisés et haïs. Mais ils sont aimés par Christ, et la grandeur de son amour est telle qu'elle ne peut être mesurée que par l'amour du Père pour Christ. Le Père avait considéré Christ comme homme sur la terre et l'avait aimé de toute la perfection de l'amour divin. Et maintenant, Christ, du haut de la gloire, regarde les siens dans ce monde et, des cieux ouverts, l'amour de Christ se déverse sur eux. C'est à ceci que le Seigneur dit « demeurez dans mon amour ». La jouissance de leur bénédiction, aussi bien que la puissance de leur témoignage, dépendront de ce qu'ils demeurent dans le sentiment constant de l'amour de Christ. Ces autres paroles solennelles du Seigneur, « tu as abandonné ton premier amour », adressées plus tard à l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, indique le premier pas sur le chemin qui mène à la ruine et à la dispersion de la compagnie chrétienne sur la terre. Le pas suivant, dans le déclin, a été qu'ils ont cessé de rendre un témoignage collectif à Christ. La lampe a été enlevée. Apocalypse 2, versets 4 et 5.
Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Et repens-toi, et fais les premières œuvres, autrement je viens à toi, et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes.
Lorsque les chrétiens marchaient dans la jouissance de l'amour divin, rien ne pouvait résister à leur témoignage collectif. Lorsque, perdant le sentiment de l'amour de Christ pour eux, ils perdirent leur premier amour pour Christ, ils cessèrent rapidement de présenter un témoignage collectif devant le monde. Que de fois cette histoire de l'Église dans son ensemble ne s'est-elle pas répétée dans des rassemblements locaux? Mais s'il y en a qui ont à cœur de répondre aux paroles du Seigneur et de demeurer dans son amour, qu'ils prêtent attention aux enseignements du Seigneur, car ils indiquent le chemin. Nous ne pouvons demeurer dans son amour qu'en marchant dans le sentier de l'obéissance. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. L'enfant qui poursuit sa volonté propre en désobéissant à ses parents apprécie bien peu leur amour et en jouit bien peu. Il en est de même du chrétien. Ce n'est que si nous marchons dans l'obéissance à la pensée révélée du Seigneur que nous vivrons dans la jouissance de son amour. On a dit très justement que nous demeurons dans l'amour de Christ comme quelqu'un demeurerait au soleil en restant à l'endroit où ses rayons brillent. L'amour de Christ repose sur le chemin de l'obéissance et brille sur le sentier de ses commandements. Garder ses commandements ne crée pas davantage l'amour que marcher dans un lieu ensoleillé ne crée le soleil. Et par conséquent, l'exhortation n'est pas de chercher de mériter ou de provoquer l'amour, mais de demeurer en lui. Le Seigneur lui-même a été l'exemple parfait de quelqu'un qui a marché dans le chemin de l'obéissance, car il a pu dire « J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour ». Verset 11. La deuxième grande caractéristique de la compagnie chrétienne est la joie. Mais c'est la joie de Christ. Le Seigneur peut dire « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie ». Ce n'est pas une simple joie naturelle, encore moins la joie du monde. C'est la joie de Christ. Une joie qui découlait de la conscience et de la jouissance ininterrompue de l'amour du Père. Il y a, certes, des joies terrestres qui sont sanctionnées par Dieu et qui, en leur lieu et temps, peuvent être goûtées légitimement. Mais de telles joies passent, le bonheur paraît et s'efface. Le vin de la joie terrestre vient à manquer. Nous pouvons certes boire du torrent dans le chemin, mais le torrent peut tarir un jour. Psaume 110, verset 7.
Il boira du torrent dans le chemin, c'est pourquoi il lèvera haut la tête.
1 Roi 17, verset 7.
Et il arriva au bout de quelque temps que le torrent sécha, car il n'y avait pas de pluie dans le pays.
Il y a toutefois une source de joie dans le croyant qui jaillit en vie éternelle et ne tarira jamais. C'est ainsi que le Seigneur peut parler de sa joie comme ce qui peut être en nous. C'est bien là une joie qui survivra aux joies passagères du temps, la joie qui demeure. La joie qui a sa source dans l'amour du Père durera aussi longtemps que l'amour dont elle jaillit. De plus, la joie dont le Seigneur parle n'est pas seulement d'une joie qui demeure, mais il peut dire à ses disciples qu'elle sera en vous. Étant en nous, elle n'est pas, comme la joie de ce monde, dépendante des circonstances extérieures. Le psalmiste pouvait dire « Tu as mis de la joie dans mon cœur, plus qu'aux temps où leur froment et leur moût ont été abondants. » Psaume 4, verset 7. Les joies terrestres dépendent de la prospérité des circonstances extérieures. Le bonheur du Seigneur est dans le cœur. Quant à ces circonstances extérieures, le Seigneur était un homme rejeté et solitaire, l'homme de douleur, sachant ce que c'est que la langueur. Dans son chemin d'obéissance parfaite à la volonté du Père, il demeurait dans la réalisation constante de l'amour du Père, et dans cet amour, il trouvait la source constante de toute sa joie. Nous aussi, dans la mesure où nous marcherons dans l'obéissance au Seigneur, nous demeurerons dans la conscience de son amour. Et, dans le rayonnement de son amour, nous trouverons non seulement sa joie, mais une plénitude de joie qui ne laisse aucune place aux regrets relatifs à la faillite de toutes les choses terrestres. Versets 12 et 13. Troisièmement, la nouvelle compagnie se caractérise par cet amour. Non seulement elle est aimée, mais c'est une compagnie qui aime, car c'est là le commandement du Seigneur. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Cet amour ne doit pas être selon un modèle humain, qui souvent est un amour égoïste, mais un amour qui n'a pas une mesure inférieure à l'amour du Seigneur pour nous, un amour dans lequel il n'y a rien du moi, car le Seigneur peut dire « Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qu'il laisse sa vie pour ses amis. » La mort est vue ici non pas dans son caractère expiatoire, mais comme expression suprême de l'amour. L'amour terrestre est souvent suscité par ce qui, dans son objet, est digne d'être aimé. L'amour divin s'élève au-dessus de toutes nos faiblesses et de tous nos manquements, et aime en dépit de tant de choses qui ne sont pas aimables. Tel est l'amour de Christ, et tel est l'amour que nous avons à nourrir les uns envers les autres. Un amour qui n'est pas indifférent aux manquements et aux souillures, mais qui, s'élevant au-dessus de tout ce qui n'est pas aimable, sert son objet jusqu'à faire même le sacrifice suprême, laisser sa vie pour un ami. Comme quelqu'un l'a dit, aucune preuve d'amour plus grande ne saurait être donnée, aucun modèle plus élevé être proposé. Versets 14 et 15. Quatrièmement, la compagnie chrétienne est une compagnie qui jouit de la confiance de Christ et reçoit ses confidences. Elle est appelée à connaître les conseils secrets du cœur du Père. Le Seigneur traite les siens non pas simplement comme des esclaves auxquels des ordres sont donnés, mais comme des amis auxquels des secrets sont communiqués. Il peut dire « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père ». Ce n'est certes pas que les disciples ne fussent pas des esclaves de Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 1er.
Siméon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous.
Jude, verset 1er.
Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ.
Romains 1, verset 1er.
Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu.
Mais ils étaient plus que des esclaves, ils étaient des amis et, si le privilège d'être des esclaves est grand, celui d'être des amis est plus grand. L'esclave, comme tel, ne sait pas ce que son maître fait. Il connaît seulement la tâche qui lui est assignée et ne reçoit que les instructions nécessaires pour son accomplissement. L'esclave qui est traité comme un ami en sait davantage. Son maître lui communique le propos secret pour lequel le travail est entrepris. Et plus encore, car un ami est quelqu'un à qui nous parlons de nos affaires, sachant qu'il y prendra le plus profond intérêt, bien qu'elle ne le concerne pas directement. Ce fut ainsi que Dieu agit envers Abraham, l'homme qui est appelé l'ami de Dieu. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » dit-il. Mais de nouveau, nous voyons que l'obéissance au commandement du Seigneur assure la place d'ami, comme auparavant elle donnait la jouissance de l'amour. Nous ne connaîtrons que peu de choses des conseils du cœur du Père si nous ne marchons pas dans l'obéissance au commandement du Seigneur. Si nous marchons dans le sentier de l'obéissance, le Seigneur nous traite comme des amis, par les confidences dans lesquelles il nous fait entrer, nous communiquant tout ce qu'il a entendu du Père. Verset 16. Cinquièmement, la compagnie chrétienne est une compagnie qui a été choisie. Jésus le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Le choix venait de lui, et non de nous. Il est heureux qu'il en soit ainsi. Si, dans un moment d'enthousiasme sentimental, nous avions choisi le Seigneur comme le maître auquel aller et pour qui produire du fruit, il y a longtemps que, sous la pression des circonstances, nous aurions abandonné. Les volontaires qui de temps à autre se sont trouvés sur le chemin du Seigneur n'ont reçu que peu d'encouragement et n'ont pas été bien loin avec celui qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête et qui était toujours l'opprobre des hommes. Mais de ceux que lui a appelés, il pouvait dire « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. » Luc 6, verset 13.
Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples, et en ayant choisi 12 d'entre eux, lesquels il nomma aussi apôtres.
Luc 9, verset 1er.
Et ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et le pouvoir de guérir les maladies.
Luc 22, verset 28.
Mais vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations.
Il n'est ici assurément pas question du choix souverain pour la vie éternelle, mais de l'amour qui nous a choisis et nous a établis pour que nous portions du fruit sur la terre et pour que ce fruit demeure. Cela a été réalisé d'une manière bénie dans les apôtres, car les caractères de Christ manifestés dans leur vie ont fait d'eux des modèles pour le troupeau pour tous les temps. En dernier lieu, la compagnie chrétienne est une compagnie qui prie et qui dépend du Père, ayant accès auprès de lui au nom de Christ. Jouissant de l'amour de Christ et admis dans les confidences de Christ comme ses amis, ils seront instruits dans sa pensée à tel point que, quelle que soit la chose qu'ils demanderont au Père au nom de Christ, il pourra la leur donner. Telle est la compagnie chrétienne selon la pensée du Seigneur. Un cercle dans lequel tout ce qui est de Christ peut être connu et goûté, car combien les petits mots « mon », « ma », « mais » venant des lèvres du Seigneur résonnent avec douceur à nos oreilles. Lié au sien, il peut dire « mon amour, ma joie, mes commandements, mes amis, mon Père et mon nom ». Ici aussi, comme quelqu'un l'a dit, on trouve toute l'histoire de l'amour dans l'amour du Père pour le Fils, l'amour de Jésus pour les siens, l'amour des siens les uns envers les autres, chaque étape étant à la fois la source et la mesure de la suivante. Le tableau de la compagnie chrétienne tel qu'il est tracé par le Seigneur est certes magnifique, mais hélas, c'est généralement en vain que nous cherchons parmi les siens une réalisation pratique des désirs du Seigneur. Toutefois, si divisés et disséminés que nous soyons, ne réglons pas notre marche sur un modèle inférieur, mais cherchons chacun individuellement à répondre à la pensée du Seigneur. Verset 17. Ces choses dont le Seigneur a parlé ont été introduites par l'amour de Christ pour les siens. Leur but est d'unir les disciples dans l'amour les uns pour les autres. Ainsi, nous pouvons apprécier l'à-propos des paroles du Seigneur « Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » Le Monde, Jean chapitre 15, versets 18 à 25.
Lecture de la parole. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont et vu et haï, et moi et mon Père. Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause.
Lecture de l'étude. C'est ainsi d'une manière très bénie, verset 18 et 19, que le Seigneur nous a présenté la nouvelle compagnie chrétienne, non pas à vrai dire dans sa formation ou son administration, le temps n'était pas encore venu pour cela, mais dans ses caractéristiques morales et ses privilèges spirituels. Elle est vue comme une compagnie gouvernée par l'amour de Christ et, demeurant dans son amour, unis ensemble par l'amour les uns envers les autres. Dans les paroles qui suivent, le Seigneur sort, en pensée, de ce cercle chrétien de l'amour pour parler du cercle de haine qu'est le monde, avertissant ainsi ses disciples du vrai caractère du monde dont ils seront entourés et les préparant à ses persécutions. Si nous partageons avec Christ l'amour, la joie et la sainte intimité du cercle intérieur, nous devons aussi être préparés à partager avec Christ la haine et l'opprobre de la part du monde. Bien loin que les disciples puissent avoir la pensée de tirer le meilleur parti de l'un et de l'autre, ce doit être Christ ou le monde. Cela ne peut pas être Christ et le monde. Une compagnie qui, d'une façon ou d'une autre, manifesterait les grâces de Christ, serait reconnue par le monde comme identifiée avec Christ, et la haine que le monde avait montrée envers Christ serait témoignée aux siens. La haine et la persécution dont il a été l'objet seraient leur part. Le monde est un vaste système qui embrasse toutes les races et les classes, ainsi que la fausse religion, qui ont en commun leur haine contre Dieu. Le monde qui environnait directement les disciples était le monde du judaïsme corrompu. Aujourd'hui, le monde avec lequel les croyants sont principalement en contact est le monde de la chrétienté corrompue. Sa forme extérieure peut changer d'une époque à l'autre. Fondamentalement, elle est toujours marquée par l'éloignement de Dieu et la haine contre Christ. Pourquoi ces hommes simples devaient-ils être haïs du monde? Ne s'agissait-il pas avant tout de gens pauvres qui s'aimaient les uns les autres, qui vivaient d'une manière rangée, étant soumis aux autorités, ne se mêlant pas de leur politique? Ne proclamaient-ils pas autour d'eux de bonnes nouvelles en faisant des bonnes œuvres? Pourquoi de telles personnes devaient-elles être haïes? Le Seigneur en donne deux raisons. D'abord, c'était une compagnie de gens que Christ avait choisi hors du monde. Secondement, c'était une compagnie de gens qui confessaient le nom de Christ devant le monde, verset 21. Le premier motif susciterait plus particulièrement la haine du monde religieux. Le second, la haine du monde en général. Au travers de tous les temps, rien n'a autant irrité l'homme religieux que la grâce souveraine qui, faisant fi de tous les efforts religieux de l'homme, choisit et bénit les parias et les misérables. La seule mention de la grâce qui, au jour d'autrefois, bénit une veuve et un lépreux, l'un et l'autre d'entre les gentils, souleva chez les chefs religieux de Nazareth la colère et la haine contre Christ. Luc 4, versets 25 à 29.
Et en vérité, je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Et Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sinon à Sarepta de la Sidonie, vers une femme veuve. Et il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sinon Naaman le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, en entendant ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter.
La grâce souveraine qui bénit le plus jeune fils excite la haine du fils aîné. Versets 20 et 21. De plus, les disciples sont prévenus que cette haine se manifestera par des persécutions. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette expression positive de haine est plus directement liée à la confession du nom de Christ. Car le Seigneur peut dire, « Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom ». La persécution, que ce soit de Christ ou de ses disciples, prouvait qu'ils ne connaissaient pas celui dont Christ était l'envoyé, c'est-à-dire le Père. Versets 22 à 25. Il n'y a néanmoins aucune excuse à une telle ignorance. Les paroles du Seigneur et les œuvres du Seigneur laissaient le monde sans excuse, que ce soit pour sa haine ou pour son ignorance. Si Christ n'était pas venu, il n'avait pas annoncé au monde des paroles telles qu'aucun homme n'en avait prononcées, s'il n'avait pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre homme n'avait faites, il n'aurait pas pu être accusé du péché d'hostilité volontaire contre Christ et contre le Père. Il n'aurait pas cessé d'être des créatures déchues, mais la démonstration n'aurait guère été faite qu'ils étaient des créatures obstinées et haïssant Dieu. Mais maintenant, il n'y avait plus de prétexte pour leur péché. Il n'y avait pas moyen de cacher la culpabilité du monde. Elle était manifeste. Christ, par ses paroles et par ses œuvres, avait pleinement révélé tout le cœur du Père. Cela ne faisait que susciter la haine de l'homme contre Dieu. Le monde, comme tel, était laissé sans espoir, car, comme leur propre loi le déclarait, ils haïssaient Christ sans cause. Ainsi, la haine du monde n'est plus de l'ignorance, c'est du péché. C'est une haine sans cause. Hélas, même comme chrétiens, nous pouvons parfois donner au monde des motifs de haine, mais en Christ, il n'y en avait point. Il existe, en fait, une cause de haine, mais elle n'est pas en celui qui est haï, elle est dans le cœur de ceux qui haïssent. La puissance pour rendre témoignage, Jean, chapitre 15, versets 26 et 27.
Lecture de la parole. Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement vous êtes avec moi.
Lecture de l'étude. Si le cercle de l'amour est entouré du cercle de la haine, un monde persécuteur qui hait les disciples de Christ d'une haine aveugle, comment un témoignage pour Christ pourra-t-il être maintenu sur la terre quand Christ lui-même s'en sera allé? Le cercle chrétien est petit et ceux qui le composent sont faibles. Le Seigneur lui-même le compare à un petit troupeau au milieu de loups. Luc 10, verset 3.
Allez, voici, moi je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Par quelle puissance les disciples pourront-ils alors résister à un monde qui est Christ et être des témoins pour lui? Ils pourront le faire et ils le feront par la toute-puissance du Saint-Esprit, personne divine qui viendra d'auprès du Père. Comme le Seigneur connaissait bien le caractère terrible du monde et sa haine implacable, les flots de son inimitié ne s'étaient-ils pas déversés sur lui dans toute leur fureur? Il connaissait bien aussi la faiblesse de ceux qui l'aimaient et l'avaient suivi, car Pierre n'allait-il pas bientôt le renier et tous n'allaient-ils pas l'abandonner? Il ne savait que trop bien que, laissés à eux-mêmes, jamais ils ne pourraient maintenir un témoignage pour lui lorsqu'il les aurait quittés pour retourner dans la gloire. Connaissant la méchanceté du monde et la faiblesse des disciples, il dit « Moi, je vous enverrai le Consolateur d'auprès du Père, l'Esprit de vérité » et le Seigneur ajoute « Celui-là rendra témoignage de moi. » Quelque faible que les disciples puissent être, quelque puissant le monde, celui-là rendra témoignage de moi. Quelques puissent être les manquements des disciples et la persécution dont ils seront l'objet de la part du monde, celui-là rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage sur la terre de la gloire du Fils dans le ciel. Le monde le mettra sur la croix au rang des plus vils, le ciel le couronnera au plus haut de la gloire, et le Saint-Esprit viendrait pour rendre témoignage de sa gloire. Le Fils était venu d'auprès du Père pour rendre témoignage du Père. Le Saint-Esprit allait venir d'auprès du Père pour rendre témoignage au Fils. En rapport avec la venue de l'Esprit, le Seigneur ajoute « Vous aussi vous rendrez témoignage ». Et il donne comme raison supplémentaire « Parce que dès le commencement vous êtes avec moi ». Certes, nous n'avons pas été avec Jésus dans le même sens littéral que les disciples, qui avaient été dans sa compagnie dès le début de son ministère. Néanmoins, il demeure vrai dans un sens moral que, si nous devons rendre témoignage pour Christ devant les hommes, il nous faut aussi être avec Christ dans le secret. Après la venue du Saint-Esprit, Pierre et Jean rendirent un témoignage si remarquable à Christ devant le monde religieux que leurs persécuteurs les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Acte 4, verset 13.
Et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés du commun, il s'en étonnait, et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus.
Le Seigneur nous présente ainsi deux grands faits. D'une part, le Saint-Esprit rend témoignage à Christ dans la gloire. D'autre part, les disciples rendent témoignage devant les hommes. Est-ce que ces deux faits ne sont pas illustrés d'une manière frappante dans l'histoire d'Étienne? Entouré par un monde religieux qui rejetait Christ, frémissant de rage dans leur haine, grinçant les dents contre lui et le lapidant, il tient ferme dans la puissance du Saint-Esprit, et levant les yeux au ciel, il voit la gloire de Dieu et Jésus. Puis il rend témoignage devant le monde. « Voici, dit-il, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Le Saint-Esprit rend témoignage dans l'esprit d'Étienne à Christ dans la gloire, et Étienne rend témoignage devant le monde. Étienne a été le premier d'une longue lignée de martyrs, mais en dépit de tout ce que le monde a fait ou fera encore, nous pouvons dire en toute confiance qu'il y a eu et qu'il y aura un témoignage pour Christ tant que la compagnie chrétienne sera sur la terre, pour la seule grande raison que le Saint-Esprit est présent sur la terre et demeure dans et avec le peuple de Dieu dans toute sa puissance infinie et irrésistible.